Bonjour à tous, je suis Jean-Philippe Louis, et il y a un mois, j'ai enregistré cet épisode de Splash avec Laurine Melka. C'est reparti pour 4 semaines, confinées, des journées alternant travail, nouveaux hobbies forcés, et forcément streaming vidéo. Je ne suis pas seul, puisque la semaine du 23 mars, on comptait 5 millions de streamers, contre 2,7 millions il y a un an. C'est l'une des activités privilégiées du confinement, clairement. Netflix, par exemple, a même dû dégrader son service face à l'afflux d'utilisateurs. Cela tombe à pic, car avec Laurine Melka, on a tenté de savoir comment fonctionnait l'économie du streaming. C'est peut-être le bon moment d'en parler.
Non, une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Faut être un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Laurine Melka, professeure d'économie à Tourcoing, et deux fois par mois, je m'attaque franco avec vous à des questions économiques qui dérangent. Ici, pas de théorie fumeuse, on part à la rencontre des individus qui font l'économie contemporaine. Bref, cette émission aujourd'hui est comme un crossover, puisqu'elle a été préparée en duo avec Jean-Philippe Louis. Bonjour Jean-Philippe, est-ce que tu peux te présenter ?
Bonjour Laurine, je suis journaliste économique aux Échos, j'écris depuis bientôt 10 ans sur l'univers du divertissement et j'ai créé le podcast Business of Music.
Si j'ai utilisé l'anglicisme crossover, Jean-Philippe, c'est bien pour une raison.
C'est un terme propre aux séries, deux univers qui se rencontrent un peu comme nous en ce moment.
C'est ça. Aujourd'hui, on va en effet parler d'une activité qui occupe une grande partie de nos vies. Regarder des séries, des films et écouter de la musique.
S'il y a une chose que j'aime avec l'économie, c'est comment elle permet d'analyser et de comprendre notre quotidien. Comme nous tous au final, je travaille pas mal. Alors durant mes rares temps libres...
Je glande, je ne fous rien. Aujourd'hui, je regarde une série. Saison 1 le matin, saison 10 à minuit.
Canapé, chips, thé ou verre de vin selon l'ambiance. Spotify, Deezer ou Apple Music si je me bouge un peu. Et Netflix si je ne bouge pas du tout. Je ne compte plus vraiment les séries auxquelles j'ai été plus ou moins accro. Stranger Things, Casa de Papel, The Get Down...
The Wire, Years and Years, Weeds, Working Mom.
Ce que je sais en revanche, c'est que toutes ces séries à regarder, ça prend beaucoup de temps. Vraiment beaucoup de temps. Au point d'avoir parfois l'impression d'être dans une consommation excessive. Bon, le plus rassurant, c'est que je ne suis pas le seul. 6,7 millions de Français seraient abonnés à Netflix. En moyenne, selon eux, on passe 2 heures par jour sur leur plateforme. Dans le monde, Spotify compte plus de 113 millions d'abonnés payants. En France, on passe 15 heures par semaine à écouter de la musique d'après la Fédération internationale de l'industrie phonographique.
Selon la même fédération, 86% des consommateurs dans le monde utiliseraient un service de streaming à la demande, audio ou vidéo.
Et qui aurait cru que les grands consommateurs de musique et films téléchargés illégalement seraient prêts désormais chaque mois à payer à la fois en compte Netflix et en compte, par exemple, Spotify. Ces deux derniers ont bouleversé l'industrie du divertissement et les modes de consommation. Nous allons donc nous concentrer sur eux au cours de cet épisode.
Et tenter de comprendre les ressorts de leur modèle économique.
C'est ça, car on a beau passer son temps sur ces plateformes, on ne sait pas vraiment ce qui se passe une fois qu'on clique sur Play. Ce qu'on sait déjà, c'est que Spotify ou Netflix sont des plateformes de streaming. Bon, rien de nouveau, ils permettent de lire des fichiers sans les posséder. D'abord, concentrons-nous sur Netflix. Comment Netflix se démène pour nous faire rester devant nos écrans via un savant procédé à base d'algorithmes ?
C'est vrai qu'on en entend parler un peu partout. Alors c'est un peu comme l'intelligence artificielle, tout le monde en parle, mais savons-nous vraiment comment ça fonctionne ?
Aurélie Jean, elle le sait. C'est une chercheuse française passée par le MIT. Elle développe justement des algorithmes dans de nombreuses disciplines. Elle en a même fait un livre, De l'autre côté de la machine, Voyage d'une scientifique au pays des algorithmes. Je l'ai contactée pour en savoir plus.
Alors, un algorithme, en fait, c'est une séquence d'opérations exécutées selon une certaine logique pour répondre à une question, résoudre un problème. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle d'algorithme, on suppose que c'est l'algorithme numérique qui est destiné à être implémenté dans un programme informatique pour tourner sur un ordinateur. Mais en réalité, l'algorithme est bien plus ancien, c'est une science très ancienne. Le mot vient du 9e siècle, mais en fait, même le concept même de raisonnement logique avec des opérations exécutées date d'Euclide, 3e siècle avant notre ère.
L'algorithme n'est donc pas un terme numérique ?
Non. Aujourd'hui, on l'entend essentiellement quand on parle de numérique et en l'occurrence de Netflix. Parce que les algorithmes pour résoudre un problème à la main ont quasiment disparu. Leur application est désormais entièrement numérique et ce mode de résolution de problèmes est la base même du business de plateformes comme Netflix.
Dans l'univers du streaming, en fait, tout de suite, là, quand vous me parlez de ça, moi, j'imagine tout de suite la personnalisation du contenu. Donc deux choses, la personnalisation du contenu et ce qu'on appelle la captologie. Donc d'abord, la captologie, on va commencer par là. Donc les algorithmes de captologie sont des algorithmes qu'on trouve dans pas mal d'outils numériques, de sites web et autres, de plateformes, et dont les plateformes de streaming, qui sont en fait des algorithmes qui sont là pour capter votre attention, pour vous faire rester le plus longtemps possible sur la plateforme et consommer du contenu. Donc c'est autant sur une plateforme de streaming, comme Netflix ou autre, Spotify, whatever, mais aussi des plateformes, par exemple, de journaux. Après, c'est jusqu'où on les utilise, comment on les utilise, parce que les algorithmes de captologie sont pas mauvais en soi, au contraire. Donc on a les algos de captologie, et puis on a des algos donc, de personnalisation, de profiling, enfin de profilage, je crois qu'on dit en français, qui sont des algorithmes qui vont, à partir de vos comportements sur la plateforme, ce que vous écoutez, combien de temps vous restez sur telle musique, comment vous cliquez, des choses comme ça, on va définir un profil, on va vous associer à un profil type de consommateur de la plateforme, du contenu de la plateforme, et donc ensuite pouvoir mieux vous suggérer du contenu à consommer. Et dans le cas du streaming, par exemple, pour la musique, ça va être des playlists ou des morceaux en particulier.
Finalement, le pourcentage de recommandations des séries qu'on nous propose sur Netflix est basé sur ces algorithmes, qui le calculent à partir de nos habitudes passées. Ce sont donc ces algorithmes qui nous font rester plus longtemps sur Netflix.
Eh bien, j'ai l'impression que c'est un peu tout à la fois. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais parfois on peut se retrouver à regarder une série dont on n'est pas vraiment fan. Moi, clairement, je n'ai pas forcément l'impression que l'algorithme Netflix soit parfait. J'ai même l'impression de passer plus de temps à chercher une série qu'à en regarder.
Tu n'es pas le seul. D'ailleurs, de nombreux abonnés se seraient plaints de passer trop de temps à chercher une série. Il semblerait qu'au bout de 3 ou 4 minutes, l'utilisateur abandonnerait même la recherche. C'est pour cela que Netflix a décidé de publier récemment un top 10 des contenus les plus populaires, pour mieux guider l'utilisateur.
Je me suis souvent posé cette question du temps passé à chercher une série. D'autant que je partage mon compte avec ma copine et ma petite sœur, qui clairement n'ont pas les mêmes goûts que moi.
Salut jeunesse dorée de Manhattan, ici Gossip Girl. Celle qui révèle au grand jour ce que l'élite new-yorkaise se donne tant de mal à cacher.
Tous les gens qui ont Netflix savent qu'on peut être jusqu'à 5 utilisateurs, je crois, sur la plateforme. Eh bien, nous, on est 5 à partager la plateforme Netflix. Et en fait, on l'a fait exprès. Ce n'est pas que pour des coûts. Un coût financier, c'est aussi pour diversifier nos contenus. Parce qu'en fait, donc on peut être à 5 avec 5 comptes différents, mais on peut être sur le même compte, il y a plusieurs comptes. Je conseille aux gens d'être sur le même compte s'ils veulent diversifier leur contenu, comme ça ils peuvent. Du coup, on fait attention à ce qu'on regarde parce qu'on n'a pas envie que l'autre voit ce qu'on regarde, mais parce que parfois on a des goûts aussi, enfin voilà. Mais en tout cas, oui, ça va modifier parce qu'en fait, les algorithmes tournent sur vos usages de la plateforme.
Cela signifie que l'algorithme de personnalisation n'est pas fiable.
Les algorithmes fonctionnent, mais il existe ce qu'on appelle des biais algorithmiques. Voici ce qu'en dit Aurélie Jean.
Vous savez ce que c'est un biais cognitif ? Donc c'est en fait une déformation de notre manière de voir les choses et les êtres en fonction de notre histoire, notre langue, notre culture, notre religion, peu importe, notre milieu social et autres, et de notre passé. Et en fait, on a tendance à transmettre ces biais cognitifs aux choses qu'on développe, qu'on construit. Ça peut être un objet, un texte, et ça peut être un algorithme. Donc ce biais cognitif va se transformer en biais algorithmique qui va biaiser l'outil. Et le biais peut se traduire de plein de manières différentes, entre autres il peut écarter une catégorie de la population de l'usage de l'outil. Je vous donne un exemple très connu. En général, ça parle très bien aux gens, c'est un peu gros, mais c'est le cas. Les premiers algorithmes de reconnaissance faciale, il y a quelques années, ne reconnaissaient pas les peaux noires parce que ça provenait d'un biais cognitif, enfin d'un biais algorithmique qui provenait d'un biais cognitif des concepteurs principalement blancs, voire seulement blancs, uniquement blancs, et qui n'avaient pas pensé, en fait, d'une part, à considérer peut-être certains contrastes, enfin les contrastes d'images associés aux peaux noires pour l'analyse explicite de l'image, et d'autre part, peut-être n'avaient pas donné n'avaient donné que des photos d'individus blancs à l'algorithme pour apprendre implicitement sur ces images. Donc c'est voilà. Et quand je le dis aussi, je le dis dans mon livre, les concepteurs ne sont pas les coupables. Ce sont nous tous. Pourquoi ? Parce qu'il y a la personne qui pense l'algo, la personne qui la développe, la personne qui la teste, la personne qui la vend, la personne qui l'utilise. Et en fait, on doit tous avoir un œil critique par rapport à ces outils pour justement éviter que ces biais se propagent, se déclenchent et restent en tout cas dans les outils.
Et j'imagine que tous ces algorithmes visent à nous faire bloquer le plus longtemps possible sur la plateforme.
Allez, reste encore un peu, toi et moi.
Le but est de nous fidéliser. C'est toute la promesse de Netflix et Spotify ou encore Deezer dans la musique. Leur business model repose sur l'abonnement. Ce n'est pas un hasard. L'abonnement, c'est le business model tendance actuellement. C'est un modèle assez vieux qu'on utilise pour notre électricité, Internet, nos portables, mais qui désormais s'applique au monde du divertissement. J'ai demandé à David Dubois, professeur associé de marketing à l'Institut européen d'administration des affaires, pourquoi ce modèle de business cartonne en ce moment.
L'abonnement a permis de gérer une nouvelle forme de relation commerciale entre entre l'usage et puis les offreurs d'un service. Voilà, dans le cas d'espèce de, d'un produit culturel comme la musique ou comme, comme la vidéo. Donc, je pense que c'est la formule qui permet quelque part de monétiser, pour reprendre le jargon d'aujourd'hui, ce type de, ce type d'activité, ce type de service. Hein. Je pense que c'est ce qui permet de sauver quelque part ce type d'industrie.
Côté consommateur, ce sont des dépenses pré-engagées qui peuvent permettre parfois de mieux gérer son budget, mais qui peuvent aussi peser sur les budgets des ménages, parce que quoi qu'on consomme, à la fin du mois, on ne peut pas diminuer ses dépenses.
Ça permet de mieux sécuriser, potentiellement d'augmenter le chiffre d'affaires. Par contre, c'est un modèle qui est assez difficile à implanter, donc qui demande au début d'investir beaucoup dans l'acquisition des clients. Donc c'est un modèle qui au début coûte cher. À la base, c'est un modèle qui est plus solide. Il faut savoir investir et donc dépenser, enfin mettre du cash pour de l'acquisition client avant de rentabiliser. Donc c'est un modèle qui correspond à une dynamique dans le temps qui est différente. C'est-à-dire que lorsque vous vendez un produit, alors c'était le CD avant ou un produit classique, vous récupérez l'argent relativement facilement. Lorsque vous faites de l'abonnement, vous étalez les recettes sur plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est surtout que Netflix, bon, étant coté et ayant une forme d'ingénierie financière qui lui a permis de dépenser beaucoup d'argent, hein, donc de faire ce qu'on appelle en anglais du cash burning.
Tu nous expliques, cash burning ?
C'est un procédé qui consiste à brûler beaucoup de cash pour de l'acquisition. En gros, il faut dépenser beaucoup d'argent avant d'en gagner. C'est la raison pour laquelle, demain, il me sera très difficile de lancer une plateforme de streaming vidéo comme Netflix partant de rien. Et c'est aussi la raison pour laquelle les concurrents de Netflix sont toujours adossés à de grosses sociétés. Disney avec Disney+, ou encore Amazon Prime Video adossé aux géants de la distribution Amazon. Le succès de ce type d'entreprise, c'est la capacité à faire accepter que les actionnaires dépensent d'emblée une somme d'argent considérable sans voir forcément les retours tout de suite.
En clair, si Netflix est gros, c'est parce qu'il investit tout de suite beaucoup d'argent pour avoir assez de contenu et faire en sorte que l'on reste le plus longtemps possible dessus.
Oui, la logique est d'avoir toujours plus. Netflix propose 32 600 heures de programme. Il faudrait donc à peu près 4 années d'affilée pour regarder tout ce qu'il y a sur la plateforme. Ce ne sont que les derniers chiffres à disposition, car Netflix produit de nouveaux contenus sans arrêt. Le but étant d'en avoir pour tous les goûts, du pointu, du soap-opéra, en passant par des films primés. Il n'y a pas franchement de limite. Tout ça pour que je puisse avoir le plus de programmes à regarder sans jamais, jamais quitter la plateforme. Au final, il y a un grand gagnant là-dedans, ce sont les créateurs. Netflix va investir plus de 100 millions dans la création en 2020 en France. En Grande-Bretagne, c'est près de 400 millions de livres qui ont été investis.
Here comes the money.
Here we go. Money talks.
Here comes the money.
Quand tu parles de créateurs, quand j'ai un abonnement streaming et que je clique sur une série ou une musique que j'aime, est-ce que je contribue à rémunérer les artistes que j'ai choisis ?
Ça dépend. Sur Netflix, c'est à peu près le cas puisqu'ils sont le plus souvent producteurs des séries qu'ils diffusent. En gros, Netflix paye les productions avant même qu'elles ne soient diffusées sur la plateforme. Récemment, il a laissé entendre qu'il pourrait donner plus d'argent aux créateurs si leur série fonctionne. Mais nous ne sommes pas encore là. C'est dans la musique que c'est plus compliqué. Mettons de côté Netflix et concentrons-nous sur une plateforme de streaming sur laquelle certains passent également beaucoup de temps. Spotify.
Alors, quelle est la différence entre Netflix et Spotify ?
Le procédé est le même que Netflix, mais Spotify évolue dans un monde bien différent du cinéma. C'est la musique. Pour comprendre, il faut revenir dans les années 90. À l'époque, la musique connaît l'âge d'or du CD. Les consommateurs écoutent plutôt chez eux et payent pour écouter. Mais dans les années 2000 est apparu le piratage numérique. En quelques années, l'industrie de la musique a perdu 60% de sa valeur. Plus personne ne voulait payer pour écouter des disques. Jusqu'à l'arrivée en 2007 de Deezer et de Spotify en 2008. Grâce à ces deux-là, et puis d'autres comme Apple Music plus tard, le chiffre d'affaires de la musique en France a repris des couleurs. En 2019, il a augmenté de 5,4% par rapport à 2018. Ça a l'air peu comme ça, mais le business de la musique avait plutôt l'habitude d'enchaîner les baisses avant les années 2010.
Ça veut dire que Spotify ou Deezer ont sauvé l'industrie de la musique.
Pour les labels, sûrement. Pour les artistes, c'est autre chose. Revenons à notre fameux clic. Est-ce que l'artiste que j'aime gagne de l'argent quand j'écoute son morceau sur Deezer ou Spotify ? J'en ai discuté avec Sofian Fanen. Il est journaliste pour le site internet Les Jours et il a écrit le livre Boulevard du Stream. Et la réponse n'est pas si simple.
Alors, la mécanique. Aujourd'hui, on est encore dans un modèle qui s'appelle le modèle prorata. À la fin du mois, on prend l'ensemble du gâteau de Deezer ou de Spotify, là, sur le mois de février, la plateforme va garder à peu près 30% des revenus publicité plus abonnement, va garder à peu près 30% pour ses frais, etc., etc. C'est à peu près, d'ailleurs, les taux, les marges que gardait la grande distribution de la musique, hein, les FNAC, etc. On est à peu près dans ce niveau-là, en fait. On a reproduit des choses du monde physique assez, assez largement. Donc, 30% pour la plateforme. Ensuite, la SACEM, au nom des auteurs, compositeurs, éditeurs, va prendre à peu près 15%. Entre 12 et 15, on est plutôt vers 15. Et ensuite, ce qu'il reste revient aux artistes, avec plein de guillemets, parce que ça passe par les maisons de disques. Donc, et là, ça va être redistribué au prorata. C'est-à-dire que la maison de disques qui va avoir fait la plus grosse part de marché sur un mois donné va récupérer la plus grosse part du gâteau.
Si Universal a fait 38% des écoutes du mois de février, ils vont récupérer 38% du gâteau disponible pour les artistes, une fois que la plateforme La SACEM a pris sa part. Sachant que la part de La SACEM elle-même est redistribuée aux auteurs-compositeurs, bien entendu. Et ensuite, il y a un trou noir dans la redistribution entre le label et l'artiste. C'est là où personne ne peut savoir ce qui se passe vraiment. C'est du contrat privé.
On ne sait pas quel contrat il y a entre Angèle et sa maison de disque, entre Jules et sa maison de disque, entre Booba et sa maison de disque, entre un obscur artiste de musique ambiante norvégienne et sa maison de disque, qui est lui-même, souvent. On va avoir des artistes qui vont récupérer 10%, 20%, 30%, 50%, 60%, 80% des fois.
À ce jeu du prorata, il y a une course au volume d'écoute. Il faut capter la plus grosse part pour avoir le plus d'argent à la fin.
Les plus grosses sont avantagées. C'est une course au volume. Donc, si vous êtes dans le top 200, dans le top 1000, vous allez capter une énorme part du gâteau disponible. Ce qui fait que, si moi, j'écoute pas Angèle au mois de février, Angèle, qui est parmi les artistes les plus écoutés de toutes les plateformes sur le mois de février encore, va avoir une partie de mon abonnement quand même. C'est comme si j'allais à la FNAC, que j'achète un disque de mon obscur artiste d'ambiance norvégienne, et c'est Angèle qui a mon argent. Il y a un truc de pas moral, de pas normal, économiquement pas forcément, parce que il y a tout un débat de dire, mais finalement c'est Angèle qui fait venir les auditeurs sur les plateformes, c'est pas mon artiste norvégien obscur, bien entendu.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Et seulement ça, ça les fait bander.
Et Spotify par rapport à Deezer, ça fonctionne de la même manière ?
Le modèle de rémunération est le même dans l'industrie. Ce qui signifie que Spotify, Deezer, Apple Music ou encore Amazon Music reversent à peu près 70% de leurs revenus aux ayants droit, donc la SACEM, les maisons de disques ou encore les compositeurs.
Et comment Spotify ou Deezer tentent alors de gagner plus ? Parce que 70% c'est quand même beaucoup.
Ouais, c'est énorme. C'est la raison pour laquelle on disait tout à l'heure qu'il fallait tout de suite dépenser beaucoup d'argent pour réussir dans le streaming. À ce jeu-là, au début, on perd plus d'argent qu'on en gagne.
Elles font comment du coup pour essayer de gagner plus ?
Spotify et Deezer ont des solutions assez différentes. Spotify, par exemple, investit massivement dans les podcasts. L'astuce est plutôt rusée. Les podcasts ne sont pas aux mains des maisons de disques. Du coup, Spotify peut reproduire exactement ce que Netflix fait dans le cinéma. Payer des producteurs pour créer du contenu et reverser beaucoup moins aux ayants droit.
Pour Deezer, c'est pareil ?
Deezer investit aussi sur les podcasts pour gagner en marge, mais ce n'est pas assez. Ils militent surtout pour un changement des règles du jeu. Ils veulent passer à un système baptisé « user-centric ». Le but serait que lorsque je clique sur un artiste que j'aime, ce soit lui et lui seul qui gagne l'argent de mon clic.
L'idée, c'est de dire « Ok, moi, Sofian Fanen, je paye mon abonnement 9 euros. Il y a à peu près 6,57 euros qui reviennent à la musique si on compte la part SACEM. L'ensemble de mon abonnement va aller aux artistes que j'écoute. Et c'est tout. Si je décide d'écouter que Nina Simone pendant tout le mois de février, j'écoute que ça, eh ben, les ayants droit de Nina Simone auront tout mon argent, c'est-à-dire mes 6,50 euros intégralement. Si je décide d'écouter que de la techno norvégienne obscure, etc., c'est ces artistes-là qui comptent pour moi, qui sont importants pour moi parce que j'ai décidé de n'écouter qu'eux, qui auront tout mon argent.
Le système user-centric paraît simple comme ça, mais c'est plus compliqué que cela à mettre en œuvre. Il y a en ce moment même une bataille de chiffres et de lobbying de tous les côtés pour savoir quel modèle est plus avantageux aux artistes ou aux maisons de disques. Sofian Fanen défend le modèle du clic qui rémunère directement l'artiste, et cela pas forcément pour des simples raisons économiques.
Dans l'histoire de la musique, la grande majorité des musiques n'ont jamais eu de pertinence en termes de volume d'écoute. Il y a énormément d'artistes qui sont extrêmement importants et qui nous paraissent importants, cruciaux, ou tout un tas de musique qu'on ne peut pas mesurer au volume d'écoute. Vous ne mesurez pas un volume d'écoute sur un quatuor baroque ou encore une fois sur de la musique d'avant-garde. Si on avait attendu, si on avait eu du volume d'écoute à l'époque du Velvet Underground, le groupe aurait été oublié, ils n'auraient même pas fait de deuxième disque. Voilà. Donc, il y a besoin de renverser cette logique-là qui n'est pas très saine pour la créativité musicale parce qu'elle a tendance à concentrer tous les moyens des maisons de disques, etc., pour les seuls artistes et les seules musiques qui vont faire du volume d'écoute, notamment donc auprès des 13-25. Alors, ça produit de la super musique, c'est pas le problème, mais sur le long terme, c'est pas forcément une bonne chose pour la créativité. Sometimes I feel so happy.
Sometimes I feel so sad. Notre clic est précieux. Les plateformes se battent pour être les plus populaires, être la référence, être celle qui capte le plus de fidèles. Elles se battent pour une nouvelle économie, l'économie de l'attention.
C'est un peu ce qu'on fait nous aussi. On a réussi à vous garder près de 20 minutes.
Exact. Et ces quelques minutes sont précieuses. Donc merci. Avec cette facilité d'accès aux films, aux séries, à la musique et aux podcasts offerts par le streaming, l'attention est une denrée rare. Je regarde Netflix chez moi, j'écoute Spotify dans le métro. On se souvient peut-être de la fameuse phrase du PDG du patron de TF1 dans les années 2000, Patrick Lelay. Il avait dit « Nous vendons du temps de cerveau disponible ».
Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible.
Cette phrase avait choqué l'opinion à l'époque. Eh bien, en 2017, Reed Hastings, le patron de Netflix, disait « Nous sommes en compétition avec le sommeil. Et pas sûr que cela ait choqué grand monde.
Rendez-vous au prochain épisode de Splash pour jeter un pavé dans la mare. Rien de mieux pour se muscler les idées. Splash est une idée originale d'Étienne Tabag. Cet épisode est écrit et animé par Laurine Melka, produite par Nouvelles Écoutes. Montée et coordonnée par Marine Rowe, mixée par Laurie Galligani. Pour vous pencher sur les études, les chiffres et références entendus dans l'épisode, ils sont à retrouver dans la description de l'émission et sur le site de Nouvelles Écoutes en vous rendant sur la page de Splash. Vous pouvez retrouver Splash sur Twitter, Splash Podcast tout attaché, et sur Instagram sous le même nom, Splash Podcast sans espace. Chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas, vous aussi, à nous poser des questions économiques dans les commentaires de l'émission sur Apple Podcast et nous prenons toutes vos bonnes idées contre 5 étoiles. À très vite !